Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans ces dimanches, après la Pentecôte, dans cette extraordinaire parabole de notre Seigneur que nous devons interpréter chaque année et d'une manière inlassable puisque nous avons encore des âmes inquiètes qui nous disent chaque année qu'elles ne comprennent pas cette parabole. Parce qu'en effet, Dieu ne peut pas louer le péché. Et cet économe, celui qui gère les biens de son maître, des biens de sa production agricole, de ses fermes, est un voleur. Il détourne de l'argent et il va être renvoyé. Et pour ne pas être dans le besoin, pour ne pas avoir à travailler lui-même ou pour ne pas avoir à mendier, il va voler un peu plus son maître en utilisant le droit. Comme souvent, le droit permet de voler. Eh bien, il change les lettres de les créances. Il va alléger les dettes des débiteurs de son maître. Il va faire passer de 50 à 100, à 50, de 100 à 80, de l'huile, du froment, pour que ensuite ces mêmes personnes lui soient redevables et lui rendent l'appareil en l'accueillant lorsqu'il sera dans le besoin. Notre Seigneur nous dit bien que ce sont les fils de ce siècle qui agissent comme cela. Nous le savons. Mais le message universel impressionnant que nous donne notre Seigneur, c'est qu'en effet, ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont cyniques et qui usent de la vie terrestre pour avoir le plus de plaisir et de jouissance personnelle, pour rechercher la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie, ceux qui aiment bien posséder des biens divers et variés, de l'argent, au point de le gâcher en quelque sorte, enfin de l'immobiliser tellement il l'accumule, ou ceux qui veulent le dépenser de manière inconsidérée, ceux qui veulent jouir de leur corps tant qu'ils ont la santé, de leur beauté, de leur jeunesse, et quand ils l'ont perdu, cette beauté et cette jeunesse, de payer pour continuer leur plaisir. Tout cela, nous dit saint Paul, va dans la vanité. Ensuite, l'orgueil de la vie, c'est la volonté d'avoir les honneurs, d'être salué dans les places. Ainsi donc, comme l'exemple que j'aime à prendre d'une manière paradoxale, si un prêtre qui donne sa vie pour rendre le Christ présent sur cette terre, lui donner une humanité de surcroît, pour qu'il continue les gestes qu'il a posés, pour qu'il donne les sacrements, qu'il prononce le pardon, qu'il prononce les paroles de la consécration, qu'il donne la paix aux âmes. Si c'est un célibataire endurci qui aime son logement, qui aime les cadeaux qu'on lui fait, qui aime sa tranquillité et ses petits loisirs, ou qui aime plus particulièrement être honoré, ne sachant pas quoi recevoir comme titre, monsieur l'abbé, parce que abbé, abba, ça veut dire père. Et Dieu est notre père, et nous sommes les représentants de cette bonté de Dieu. Donc nous devons souffrir d'être appelés monsieur l'abbé, ou mon père, lorsqu'on est religieux, qu'on a fait les trois vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Le clergé régulier. Mais donc le clergé diocésain, c'est monsieur l'abbé. Alors si ce prêtre est curé, on lui dit monsieur le curé, Il a la cura animarum, le soin des âmes. Et s'il est distingué pour quelques services qu'il rend au diocèse, il peut être chanoine, c'est-à-dire être au cœur de la cathédrale pour prier pour le diocèse auprès de l'évêque. Alors on lui dira « Monsieur le chanoine ». Mais en confession, on lui dit toujours « Mon père ». Et cela fait peut-être 10 fois que je vous le dis, mais je le répéterai toujours. En confession, c'est ni monsieur le curé, ni monsieur le chanoine, ni monsieur l'abbé, mais mon père, qu'on soit dominicain, franciscain, évêque, pape. Pourquoi ? Parce que justement, à cet endroit-là, nous sommes dans la miséricorde de Dieu. Et le prêtre nous entend comme Dieu. Et vous avez 2 confesseurs ce matin. Donc réfléchissez bien jusqu'à la fin de cette messe et profitez de ces 2 confesseurs. L'un d'eux a été ordonné le 24 juin, si je ne me trompe. Et à la fin de la messe, il vous bénira de sa bénédiction de prémisse pendant 1 an. Une bénédiction particulière et puissante qui vous permet d'avoir l'indulgence plénière des réparations de vos péchés. Alors, si vous vous confessez aujourd'hui, par exemple, et si vous communiez aujourd'hui, en priant pour les intentions du souverain pontife, vous pouvez avoir l'indulgence des peines de vos péchés. Et je rappelle les intentions du souverain pontife. C'est la propagation de la foi. La propagation de la foi est proposer le baptême à tous, aux juifs et aux musulmans, aux hindous et aux bouddhistes. C'est la conversion des baptisés pour qu'ils vivent selon la loi de l'Évangile. C'est la paix entre les États et plus particulièrement les États chrétiens. La fin des hérésies et des schismes. Voilà l'intention de tout pape. Cette intention est objective, elle ne dépend pas de tel ou tel pape. Et c'est la raison pour laquelle il y a une indulgence plénière qui nous est donnée. Mais alors, pourquoi donc nous ne nous servons pas de ces réductions de dettes? Pourquoi nous ne passons pas par la Vierge Marie qui, selon des auteurs spirituels très très fins, nous indique que finalement on peut comparer la Vierge Marie à l'économe infidèle? Comment cela? Eh bien parce que la Vierge Marie diminue nos dettes. Elle puise, même dans les trésors de son Fils, en cachette ou avec permission, pour obtenir un pardon par la puissance de son cœur immaculé sur la puissance de Dieu. Elle qui est une créature, qui est une femme, qui est une mère, et qui n'a pas de puissance divine, elle use de son influence pour diminuer nos dettes. Voilà une interprétation que vous ne connaissiez peut-être pas. La Vierge Marie, envoleuse de grâce. Et est-ce que nous passons par elle si nous craignons le roi, si nous craignons encore le cœur sacré de Jésus? Puisque saint Paul nous dit aujourd'hui de ne pas avoir peur, mais pourtant, nous avons quand même un peu peur de Dieu. Parce qu'il peut nous retirer nos biens, il peut nous dépouiller, il peut nous dépouiller de nos biens matériels, mais surtout ce qu'il fait d'une manière vertigineuse, c'est qu'il peut nous retirer la santé. Oh, mais il nous prévient, nous sommes tous prévenus, au moins par l'âge, nous ne pourrons pas garder notre santé. Vers 70 ans, mais même avant, lorsqu'on commence à avoir des lumbagos vers 50 ans, à 80 ans, on est moins fringant. Peut-être que vers 108 ans ou 122 ans, nos cellules se régénèrent, mais on a très peu de cas et de preuves. Tout cela pour nous avertir d'un avertissement qui est solennel. Nous sommes mortels. Notre corps est mortel. et nous avons une âme immortelle et tous les peuples en sont conscients. Il faut atteindre la décadence occidentale pour nier cette immortalité de l'âme. Et cette vie spirituelle, elle est reçue de Dieu qui est esprit, esprit et vérité. Alors, oui, volons Dieu, arrachons-lui ses grâces, arrachons-lui sa miséricorde, arrachons-lui sa bonté, puisque Dieu lui-même nous félicite de tricher, de profiter de cette miséricorde, de recevoir l'absolution. Et comme il est triste d'avoir vu ce sacrement abandonné, alors même que si vous avez honte de mendier cette absolution, Dieu la donne avec largesse. Oui, nous avons besoin de voler cette grâce. Elle est gratuite, alors nous pouvons en abuser et en abuser encore. Et voilà que notre Seigneur nous dit que nous manquons d'intelligence et que les personnes qui sont véritablement malicieuses, elles sont intelligentes, elles sont prudentes et elles font tout dans leur vie pour véritablement voler, pour véritablement être injustes avec vous. Voyez, je recommande à votre prière une famille dont la fille a nettoyé, pour ne pas dire plus, puisque ce sermon est enregistré et diffusé sur Internet, sur la chaîne YouTube IT Missa Est, comme quoi les enfants de lumière peuvent utiliser aussi la technique des fils de ce siècle. Eh bien, cet autel que vous voyez avait été nettoyé l'été dernier et il est nettoyé maintenant par ces petites statues à la base de l'autel. Remarquez-vous que les visages s'éclairent, que les couleurs sont plus vives et ce n'est que le début. Alors, est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous savons nous arracher de l'injustice? Est-ce que nous savons espérer lorsqu'il nous arrive des épreuves, lorsque nous sommes victimes de la méchanceté de ceux qui sont profondément malicieux? Est-ce que nous nous entraidons entre ceux qui ont la foi, l'espérance et la charité? Est-ce que nous avons cette intelligence? Apparemment, notre Seigneur nous dit que nous aurons toujours du retard sur les fils de ce siècle. Alors, pour conclure, ce retard est-il si mauvais? Le chrétien, en effet, est invité à prier pour ses ennemis et à bien faire attention, car s'il veut obtenir le pardon de ses propres malices et de ses propres péchés, il doit avoir cette indulgence. Soyons bien prévenus, nous devons pardonner à nos ennemis. C'est une obligation. À Dieu la justice, à Dieu la punition pour celui qui ne demandera pas pardon et qui résistera à l'amour de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu nous a fait le commandement de pardonner et d'aimer nos ennemis, c'est-à-dire de prier pour leur salut, pour leur conversion. Non pas qu'ils continuent à être en bonne santé et riches et qu'ils puissent faire le plus de mal possible. Ce n'est pas cela, prier pour ses ennemis. Mais prier pour ses ennemis, c'est prier pour leur conversion, pour que leur âme soit sauvée et que le sang de notre Seigneur, en ce mois de juillet, ne tombe pas à terre pour ces âmes. Oui, nous aurons toujours du retard par rapport à ces fils du siècle, par rapport aux personnes malicieuses, car nous devons être bons et miséricordieux. Nous devons être trop gentils. Nous devons être des poires. Je connais une personne qui est d'une telle gentillesse qu'elle en est désarmante. Eh bien, finalement, c'est sans doute elle qui a raison. Parce qu'il vaut mieux être une poire qu'un poison dans ce siècle. Car notre Seigneur nous récompensera et il nous dit lui-même que nous manquons d'intelligence, que nous sommes même stupides à trop pardonner. Il nous le dit, mais est-ce vraiment mauvais. Je ne le pense pas, finalement. Il vaut mieux être martyr que martyrisé. Il vaut même être trop bon. Alors vous me direz qu'il faudra se battre, qu'il y aura des ennemis qui nous attaqueront, et même physiquement, qu'il faudra peut-être même faire la guerre. Je vous le concède, il y a des guerres justes, il y a des guerres de défense. Nous devons défendre notre pays, nous devons défendre nos familles. Mais nous ne devons jamais oublier de prier pour le salut de l'âme de ceux qui nous attaquent. Nous ne devons pas être des païens, nous devons être des chrétiens qui se défendent. Nous devons avoir toujours le salut de l'âme au cœur de notre préoccupation. Et ainsi, nous pourrons être des enfants de Dieu. Nous pourrons être des enfants d'un seul Père qui a envoyé son Fils, né de la Vierge Marie. Et nous pourrons en vérité faire le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.